Une des choses qui me frappe, c'est que quand Clément de Rome, qui écrit en 90, qui est un produit de la communauté romaine, mentionne la mort à Rome, il écrit en 90 de Pierre et de Paul, il ne connaît absolument aucun détail. Ni où ça a eu lieu, ni comment ça a eu lieu. Lui aussi, il fait du remplissage en utilisant pour Paul des citations des épîtres et de la deuxième au Corinthiens, j'ai été lapidé, etc. Mais il ne connaît rien en 90.
Il ne rapporte aucun élément supplémentaire. Il dit Paul est allé en Espagne, mais il semble recopier texto ce qu'il dit dans la lettre aux Romains. Ouais.
Donc ça n'a pas été une mort spectaculaire. Ce qu'on peut en dire, c'est que ça n'a pas été une mort spectaculaire et mémorable. Il y a plusieurs circonstances possibles. Il se peut que Paul ait passé pour un chef d'école philosophique, c'est un peu l'idée qu'en donneraient les épîtres pastorales à Timothée, et qu'il ait été pris dans les rafles et la répression que les empereurs ont déclenché contre les philosophes, les intellectuels, les prêcheurs, etc., dans les années 65-70.
Et donc sa mort est un non-événement.
Oui. Un non-événement, contrairement à celle du Christ, oui, qui est beaucoup plus mémorable dans la...
Et donc, il est enterré donc, à la basilique Saint-Paul hors les murs, et on a retrouvé une sorte de pierre tombale, si on peut dire.
Les fouilles reprennent.
Très, très ancienne, oui, pour l'année. Et donc, très, très ancienne. On ne sait pas si c'est... Enfin, on pense quand même que c'est le corps de Paul, mais ce qui est sûr, c'est que la dévotion au corps de Paul est très ancienne à cet endroit-là précis.
Elle remonte à 180. C'est le témoignage du prêtre Gaius, aller vénérer les trophées des apôtres au Vatican et sur la route de Sion.
Alors, il nous reste très peu de temps pour parler donc de la postérité de Paul. Alors, postérité immédiate et puis postérité plus lointaine. Postérité immédiate, les téléspectateurs se sont rendus compte qu'il y a des lettres dont on n'a pas parlé, qui sont Colossiens, Éphésiens et évidemment Hébreux, plus toutes les lettres pastorales. Ce qu'il faut expliquer, c'est que ce sont des lettres qui ont été écrites après la mort de Paul. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des fausses lettres ?
Oh ben non, non. Après la mort de Paul, si on considère que c'est un non-événement, qu'est-ce qui reste de Paul et de son enseignement ? À peu près rien. Et ce sont les disciples qui, après 70, après la chute du Temple, qui est un événement qui bouleverse le judaïsme comme le christianisme très profondément, et ce sont les disciples de Paul qui vont d'une part raconter sa vie, Luc, et d'autre part qui vont collectionner, éditer les lettres, quitte à, par exemple pour la lettre aux Éphésiens, à faire la plus belle synthèse de la théologie de Paul qu'on puisse avoir, et beaucoup d'exégètes aujourd'hui reconnaissent l'intervention de Luc dans ce travail d'édition des lettres de Paul, qui connaît sûrement un processus plus compliqué et plus sinueux. C'est pas les 14 lettres d'un coup qui
donc
ont été...
Donc on poursuit publiées. L'enseignement en l'adaptant à l'évolution des communautés.
Non, ça, on la poursuit. Il faut le déduire. Oui. Et je pense qu'on peut le déduire en particulier des actes des martyrs ou des correspondances épiscopales qu'a transmises l'historien de l'Église, Eusèbe de Césarée. Mais on est forcé de le déduire. Mm-hmm. Il y a pas, on nous raconte pas ce qu'il restait des communautés pauliniennes, comment ils ont fonctionné. Là encore, il y a un grand gap d'ignorance jusqu'en 180. Mais ce qui est remarquable, par exemple, c'est que quand l'Église d'Afrique, donc dans la zone latine, émerge en 180 et que les premiers martyrs sont arrêtés, et on leur demande ce qu'ils ont comme livre, ils ont des mémoires de Jésus, donc des évangiles, et ils ont des lettres de Paul. Mmh. Donc on voit que déjà, tout au cours du deuxième siècle, les lettres ont circulé, ont été traduites en latin, ce qui n'était pas non plus le cas au début.
Alors, il nous reste juste 5 minutes et j'aimerais vous poser à chacun une question. Enfin, la même question, qu'est-ce qui pour vous constitue l'innovation de sa vie? Qu'est-ce qui, en quoi Paul a un intérêt à la fois historique et pour le présent? Quelle est sa postérité la plus importante?
Pour moi, je pense que l'historienne qui aura des pâquerettes et très concrètes va parler avant le théologien. Message spirituel, pour moi, c'est celui qui a su implanter le christianisme dans le monde et qui a pris le monde à bras-le-corps. C'est-à-dire qui a fait du christianisme une réponse aux problèmes du monde où il vivait, qui pour moi est incontestablement le monde gréco-romain. Donc bien sûr, Paul connaît un purgatoire. Les choix de Paul dont je parlais, aller manger avec les païens, tout ça, ne sont pas suivis par exemple par l'auteur de l'Apocalypse, les communautés johanniques. Mais quand on suit les bribes d'histoire indirect de l'histoire du christianisme au fil du deuxième et du troisième siècle, on voit que ce sont ces choix qui finalement s'imposent. Et quand on travaille sur les bribes aussi de lettres que les évêques, par exemple, échangent entre eux, entre 150 et 250, on voit aussi que ces choix progressivement s'imposent. Donc il a fait les bons choix, pourrait-on dire. Donc une personnalité très contestée, qui a fait incontestablement l'objet d'un purgatoire dans de nombreux lieux où il y avait des communautés, à Antioche, à Éphèse et ailleurs, mais celui qui avait senti comment le christianisme pouvait s'implanter dans le monde et apporter une réponse au monde où il vivait.
C'est en deux mots, Jésus-Christ. C'est-à-dire, la passion de sa vie, c'est Jésus-Christ. Et lire les textes de Paul aujourd'hui...